Bonjour à chacun de vous. Soyons vraiment les bienvenus, c'est vrai, dans la maison de Dieu et nous allons partager ensemble un texte de la parole et nous allons laisser ce texte nous parler, nous enseigner certaines choses, nous reprendre peut-être dans certaines parties de nos vies, notre relation avec Dieu. Nous voulons vraiment ensemble garder ce temps pour en apprendre davantage sur Dieu, pour entrer davantage en communion avec Dieu. Or, le passage que l'on va lire ensemble, que l'on va étudier ensemble, ce n'est pas un passage compliqué. C'est un passage certainement que l'on raconte aux enfants à l'école du dimanche. C'est un passage que vous aurez déjà certainement lu, peut-être à plusieurs reprises. Mais comme Benoît l'a dit lors d'une prédication il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas quitter un texte tant que ce texte n'a pas fini de nous parler. Et il y a quelques semaines de cela, ce texte que j'ai relu m'a parlé. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, ce partage avec vous. Et pour que le Seigneur vous aide, m'aide aussi moi et vous aide-vous à comprendre, à saisir les vérités de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est bien vivante, elle agit encore aujourd'hui avec puissance, même si ce texte a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, même plusieurs milliers d'années, eh bien, la parole de Dieu vit encore aujourd'hui. Nous allons prier pour cela d'ailleurs, pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, ce matin, je te rends grâce, Seigneur, d'être présent dans ta maison. Seigneur, je te rends grâce de la présence de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je te prie, je t'invoque, Seigneur, afin que tu puisses me remplir du Saint-Esprit, Seigneur, afin que les mots qui sortent de ma bouche, Seigneur, soient choisis par toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à pallier à mes limites, Seigneur, à mes lacunes, et prends toute la place, Seigneur, en moi. Fais de moi, Seigneur, un outil entre tes mains, Seigneur. Seigneur, sois avec chacun de mes frères et sœurs, que leur cœur, Seigneur, soit tourné vers toi, soit ouvert, Seigneur. Que ce temps d'arrêt, que cette halte, Seigneur, serve à t'écouter, Seigneur, et à saisir les merveilles qui sont dans ta parole. Seigneur, les trésors qui s'en dégagent. Seigneur, je t'invoque en la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble, vous allez suivre avec moi la lecture sur le tableau. On va lire dans l'évangile de Marc. Nous prendrons l'évangile de Marc au chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Bien sûr, nous ferons d'autres lectures durant la prédication, mais c'est ce texte-là qui va nous servir de fil conducteur pour la prédication. Donc Marc chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte avant de commencer de la lecture, Jésus se trouve ici à Capernaum. Jésus s'est déjà rendu à Capernaum auparavant, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, après avoir passé des temps dans le désert où il a subi la tentation de l'ennemi, de Satan, après avoir guéri déjà un lépreux, après avoir déjà chassé un esprit impur dans la synagogue d'un homme qui était hanté d'un esprit impur, après avoir réalisé beaucoup de choses merveilleuses, la foule s'est rassemblée autour de Jésus, la foule ne le quittait plus. La foule pressait Jésus parce que ses œuvres, ses actes, sa manière de prêcher étaient tellement particulières que les gens le suivaient. Et suite à ces événements, Jésus va dire à ses disciples, ils vont se rendre dans un lieu désert pour prier, pour trouver un peu de paix, un peu de calme, un peu de sérénité. Et après Jésus va dire, il faut aussi que j'aille dans les petites bourgades des alentours. Dans toute la Galilée, il faut qu'on sorte de Capernaum. Il faut qu'on aille dans les petits villages aux alentours parce que eux aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et donc Jésus va quitter un peu Capernaum pour quelque temps et après, de nouveau, va se rendre à Capernaum pour la deuxième fois. Et c'est dans ce contexte-là que ce passage va être lu. Marc 2, à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et le verset 12, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. » De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. On peut voir ici qu'à peine Jésus est de retour à Capernaum, à peine il est rentré non pas dans sa maison, parce qu'il n'avait pas de maison à lui, Jésus, mais dans une maison qu'il accueillait lorsqu'il était à Capernaum. Nous pensons que c'est la maison d'André dans laquelle il se trouve, une maison dans laquelle il a l'habitude de se trouver, de passer du temps, où il est accueilli, où Jésus est accueilli. Qu'à peine Jésus de retour, une grande foule de personnes suivent Jésus. Une grande foule. Une foule tellement grande que la maison, l'espace devant la maison et aux alentours de la maison, il n'y a plus de place. Tellement les gens se massent pour voir Jésus. La renommée de Jésus s'est répandue comme une traînée de poudre par rapport à ce qu'il a déjà réalisé, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa manière de prêcher avec autorité, par rapport à sa manière d'agir, les miracles qu'il réalise, les guérisons, sa manière d'agir, sa bienveillance envers les gens qu'il rencontre. Les gens sont curieux. Les gens sont même très curieux de voir celui qu'on appelait aussi le faiseur de miracles. Jésus était aussi appelé le faiseur de miracles. Jésus, les gens veulent le voir de leurs yeux. Ils veulent peut-être aussi être touchés par Jésus, pouvoir toucher seulement le pan de sa robe pour être eux-mêmes guéris, parce que c'est ce qui se passait. Les gens sont donc très curieux. Et la première petite parenthèse que je voudrais ouvrir ce matin, c'est que partout où Jésus intervient avec puissance et avec autorité, eh bien les gens se massent, les gens sont curieux de voir cela. Alors je ne dis pas que les gens qui voient Jésus en action se convertissent tous à son nom, à lui, mais partout où Dieu intervient avec puissance, dans les églises, dans des réunions où le nom de Jésus est proclamé et où Jésus intervient avec puissance, eh bien les hommes et les femmes sont attirés par ce que Jésus réalise au travers de la vie des frères et des sœurs. Voilà pourquoi il faut témoigner de ce que Jésus fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous, les grands miracles que Jésus a opérés dans nos vies, les grandes guérisons, les délivrances que Jésus a déjà opérées. Il faut en parler. Et nous voyons aussi que Jésus est occupé, pas à faire n'importe quoi. Il est dans la maison et il annonce la parole de Dieu. Et cet exemple de Jésus, ce matin, pourrait déjà nous être utile, nous servir à nous-mêmes. Jésus ne se trouve pas d'excuses, de fatigue, de faim, de soif, ne se trouve pas d'excuses de migraine, de maladie, de quoi que ce soit. Jésus annonce fidèlement la parole de Dieu. Là où nous avons des lacunes, nous, à annoncer la parole de Dieu par rapport à toutes sortes de difficultés qui nous empêchent, eh bien lui, Jésus, ne se lasse pas, ne se fatigue pas. Il reste fidèle à ce que son Père lui a demandé, d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer la fidélité de Dieu, d'annoncer le pardon des péchés en sa propre personne. Il annonce Dieu. Que l'attitude de Jésus ce matin soit déjà un exemple pour chacun de nous, qu'elle nous serve d'exemple déjà à chacun de nous. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, on peut l'afficher derrière, s'il vous plaît. Matthieu 28, versets 18 à 20, il nous demande aussi, Jésus, à nous, d'aller faire comme lui, d'aller annoncer la parole de Dieu avec persévérance, de ne pas se trouver d'excuses, mais d'être fidèle. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, il parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20 aussi, s'il vous plaît. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous demande aussi d'être comme lui. De ne pas se lasser, de ne pas se fatiguer, d'être persévérant, de ne pas se trouver d'excuses sans cesse pour parler de lui, d'annoncer fidèlement comme Jésus le fait dans la maison à ce moment-là. Jésus est donc dans cette maison où les gens se pressent. Nous verrons plus tard que les scribes, eux, sont dans la maison, bien installés, assis, parce que les scribes ont une position privilégiée. Bien sûr, eux, ils ont une chaise, c'est pas le cas de tout le monde, mais eux sont installés. Et Jésus est donc dans la maison. Et va arriver à lui un homme paralytique, donc incapable de se déplacer lui-même. Il va donc être amené à lui par des personnes. Et c'est ce que nous allons voir, un peu l'attitude de cet homme, l'attitude des hommes qui ont apporté le paralytique. Plus de place dans la maison, c'est dit. Plus de place devant la porte de la maison. C'est comme si l'église ici était bondée, toutes les chaises remplies, des gens debout partout, et que la porte d'entrée est complètement couverte. Le monde est partout, et même au-delà de la maison, à l'extérieur, il n'y a plus de place pour passer. Plus de place pour parvenir à rencontrer Jésus. Le chemin est bouché, la route est bouchée. Et pour cet homme paralytique, combien d'obstacles sont devant lui? Imaginez-vous, il ne sait pas se déplacer tout seul, son lit ça prend de la place, sa civière elle prend de la place, il doit être porté par des autres, et il voit devant lui qu'il n'y a pas de place, c'est fini, c'est bouché, la route est complètement pleine, il n'y a pas moyen de passer. Ce passage de la Bible au verset 2 de l'évangile de Marc, eh bien, m'a rappelé, m'a fait prendre conscience d'une chose importante à nous qui sommes en plein exercice d'évangélisation, qui changeons un peu les méthodes d'évangélisation, combien sont nombreux les obstacles sur le chemin et sur la route de ceux et celles que nous souhaitons amener à Jésus-Christ. C'est vrai, les obstacles sont nombreux. Aux personnes à qui nous parlons de l'évangile, du pardon des péchés, combien il y a d'obstacles sur la route devant eux. Comme pour cet homme, combien c'est difficile, eh bien, de trouver un chemin jusqu'à Jésus. Parce que sur leur route à eux aussi, c'est rempli d'obstacles, c'est rempli d'embûches. C'est vrai. Qui n'a pas déjà ici invité une personne à venir à un culte un dimanche ou à un culte particulier, un barbecue comme Assuris fait entre églises, à un concert, à un film qui est projeté, un film sur Jésus-Christ? Qui n'a jamais invité une personne, un membre de la famille, un collègue, un ami, quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un à qui on a parlé de l'Évangile? On a tous déjà invité au moins une personne. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on constate souvent? Les gens, soit ils vous disent non tout de suite, ou ils vous disent oui. Et ils prennent ce rendez-vous. Et puis les jours passent. Et voilà que la veille ou le jour du film, du culte, de la fête de Noël, peu importe où vous l'avez invité, eh bien, ils annulent. Parce que la fatigue, le travail, les enfants sont peut-être malades, je ne me sens pas bien, la voiture a un pépin. Il y a toutes sortes de choses qui font, il y a des obstacles qui se mettent sur la route de ces personnes pour empêcher qu'ils puissent venir à rencontrer Jésus. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que le combat spirituel étant, obstacles et embûches sont sur la route de ces gens. Les obstacles sont nombreux, ils sont puissants, ils sont ingénieux, ils sont malins, ils sont intelligents. Pourquoi? Par qui sont placés ces obstacles? Par Satan lui-même, par Satan, l'ennemi de Dieu. Satan, c'est celui qui souhaite que personne ne puisse rencontrer un jour Jésus. Satan, c'est celui qui souhaite que chaque homme et chaque femme meure dans ses péchés. Parce que si un homme ou une femme meurt dans ses péchés, eh bien, son âme est perdue pour l'éternité, privée de la présence de Dieu. Alors Satan va tout faire pour empêcher, eh bien, que le chemin ne s'ouvre pour que les personnes à qui on parle de l'Évangile puissent venir rencontrer Jésus. Alors bien sûr, toutes ces personnes qui sont là, je lui dis, qui bouchent la maison, à l'intérieur, à l'extérieur, aux alentours de la maison, eh bien, peuvent représenter tous les obstacles que les hommes et les femmes à qui nous parlons de l'Évangile, eh bien, ont sur leur route, sur leur chemin, avant de rencontrer Jésus. Obstacles physiques. Ça peut être des obstacles physiques, hein. La voiture a une roue crevée, le moteur ne démarre pas, la batterie a lâché. Ça peut être aussi, et le plus souvent, les obstacles spirituels. Il y en a énormément. La parole nous dit qu'il ne faut pas lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des dominations, des autorités, des principautés, les esprits impurs, les démons que Satan utilise pour déstabiliser, pour mettre des bâtons dans les roues. Et la meilleure arme que nous ayons lorsque nous parlons à quelqu'un de l'Évangile, lorsque nous l'invitons à une réunion particulière, c'est la prière. Il nous faut prier avec du zèle. Il nous faut prier parce que c'est l'arme que nous possédons. C'est l'arme que nous possédons pour désarmer Satan, pour désarmer ses démons, pour désarmer les obstacles, toutes ces choses qui sont compliquées sur la route de ceux que nous parlons. Prions-nous assez? Est-ce qu'on le fait assez? Est-ce qu'on le fait une fois par semaine, deux fois par semaine? Est-ce qu'on le fait tous les jours? Est-ce qu'on le fait pas du tout? Ah, c'est une question que je vous pose. Mais prions-nous assez pour les personnes à qui nous parlons de l'Évangile ou pas? Passons-nous du temps dans la prière? Sommes-nous zélés pour la prière? Sommes-nous des gens de prière? Gardons-nous du temps dans la semaine pour être seuls, dans un bureau, dans une chambre, pour prier Dieu, pour ne pas se laisser distraire? Est-ce que nous le faisons assez? La question que nous pouvons nous poser ce matin. Pour ce paralytique de ce matin, voyons combien pour lui, le chemin va être compliqué. Voyons combien il part de loin. Il part de loin, cet homme, pour rencontrer Jésus. Voyons combien les obstacles sont nombreux devant lui. Combien de personnes ne sont pas avant lui? Combien de personnes ne sont pas devant lui? Devant la porte, dans la maison, aux alentours de la maison, le chemin est bloqué. En plus, il est handicapé. Il est paralytique, il ne sait pas se déplacer. Combien ça a dû être pour lui quand il a dû voir cette image? Il a dû, pendant un moment, avoir un moment d'hésitation, de dire « c'est pas pour moi aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est trop de monde. Je reviendrai une prochaine fois. » Chemin semé d'embûches. car beaucoup sont avant lui et devant lui. Et qu'en est-il de nous? Qu'en est-il pour nous? Est-ce qu'on peut se rappeler quelques instants, à ceux qui ont déjà rencontré Jésus, comment ça a été pour nous? Comment ça a été pour nous lorsque quelqu'un nous a parlé de l'évangile de Jésus? Est-ce qu'on peut se rappeler comment ça a été peut-être difficile pour nous? Combien d'embûches, combien d'obstacles il n'y a pas eu pour nous aussi? Combien de réunions on n'a pas refusé d'aller? Combien d'habitations on a décliné? Peut-être en mentant parfois, en se trouvant une excuse, j'ai mal de tête, la fatigue, les enfants, la voiture, peu importe, on a refusé peut-être combien de fois? Combien les embûches et les obstacles de l'ennemi ont été nombreux avant que nous parvenions à rencontrer Jésus? Et maintenant que nous l'avons rencontré, maintenant que nous sommes chrétiens, maintenant que nous sommes pardonnés et nés de nouveau, est-ce que c'est pas encore difficile? Est-ce qu'il n'y a pas encore des obstacles? Est-ce qu'il n'y a pas encore des embûches? Est-ce qu'il n'y a pas encore des racines, des pierres sur le chemin qui sont placées là toujours par l'ennemi, toujours par Satan? Toujours c'est intelligent, toujours malin, toujours perfide, parce que l'ennemi nous connaît, il sait comment on est fait. Il sait qu'il ne faut pas grand-chose pour nous distraire. Combien ça a été compliqué, combien ça l'est encore maintenant. Alors pour chacun de nous, eh bien, on pourrait prendre des exemples différents de ce qui nous empêche de parfaire chaque jour la relation que l'on doit avoir avec Dieu, qui nous empêche de méditer la parole, de la lire, de prier pour nos frères et nos sœurs, de prier pour ceux à qui nous parlons de l'Évangile, que nous avons rencontrés dans la rue, au magasin, au travail, peu importe. Télévision, smartphone, réseaux sociaux, sorties, internet, sport, fatigue, travail, toutes ces choses seront différentes pour chacun de nous, mais elles sont bien réelles. Ces choses sont là. Et en plus, ce sont toutes des choses qui ne sont pas proscrites par le Seigneur, dans la parole de Dieu. Regarder un peu de télévision, utiliser le smartphone, régler des sorties, voir des amis, faire de l'exercice physique, tout ça n'est pas interdit, mais utiliser à mauvais escient, utiliser trop, trop d'heures par jour, trop d'heures par semaine, ça ne va pas, ça ne va pas. Ces choses-là prennent la place de Dieu. Ces choses prennent la place de la prière. Ces choses prennent la place de la lecture de la parole de Dieu. Ces choses prennent la place même du dimanche. Ces choses prennent la place du mardi pour les réunions de prière. Ces choses prennent la place des études bibliques. C'est vrai, parce qu'elles sont placées là par Satan. Satan utilise ces choses pour nous déstabiliser. Nous devons être attentifs en tant que chrétiens. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau, mais combien nous pouvons nous laisser déstabiliser? Parce que l'ennemi est fort. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire si nous restons attachés à Jésus-Christ. Nous devons être attentifs à notre attitude et observer, regarder si nous nous sanctifions, si nous nous mettons à part pour Dieu. Sommes-nous à part pour Dieu? Sommes-nous à part pour Dieu? Nous allons maintenant nous intéresser aux quatre personnes, aux quatre hommes qui vont porter le paralytique. Ils sont quatre. Certainement qu'il y en a un qui tient un coin, comme au football. Quand un joueur est blessé, on vient parfois avec une espèce de petite civière. Parfois, ils sont deux. Avant, ils étaient parfois quatre. Alors, ils arrivent et on met le malade ou blessé sur le petit lit. Et hop, on porte et on sort du terrain. Et donc, ces hommes sont certainement en train de porter le paralytique de la même manière. On ne sait pas exactement si ce sont des amis de cette personne. On ne sait pas s'ils l'ont rencontré juste avant. On ne sait pas s'ils l'ont vu de loin. On ne sait pas. En tout cas, moi ici, j'ai envie d'appeler les amis. Parce que pour faire ce qu'ils vont faire, nous le verrons après, ça a dû être des gens bienveillants. Ces quatre hommes donc portent leur ami. Ils voient que le chemin est bouché. Ils le voient aussi, qu'il n'y a pas de place pour passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces hommes? Ils vont rebrousser chemin. Non, ils ne vont pas rebrousser chemin. Ils vont faire autre chose. Ils vont observer. Ils m'ont certainement remarqué que sur la maison construite en pierre, à l'époque, elles sont construites en pierre, les maisons, et sur le côté de la maison, il y a un escalier en pierre aussi, qui monte sur le toit. Les toits sont fabriqués en paille et en boue séchée, et ils vont passer par l'escalier, ils vont monter sur le toit, ils vont découvrir le toit de la maison, suffisamment d'espace pour pouvoir descendre le lit jusque devant Jésus. C'est ça qu'ils vont faire. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis interrogé, je me suis dit, mais combien l'attitude de ces quatre hommes, ils sont exceptionnels, hein, vous ne trouvez pas? C'est exceptionnel comme d'avoir fait ça. Enfin, faut le faire, faut oser le faire, ce qu'ils ont fait là quand même. Et combien la foi animée par le Saint-Esprit dans un chrétien, homme ou femme, peut se montrer ingénieuse, efficace, animée d'amour, de bonté pour son prochain. Combien la foi animée par le Saint-Esprit peut trouver un chemin ou des chemins de traverse, là où tout semble bouché, là où, à vue humaine, il n'y a pas de place, là où, à vue humaine, il n'y a pas de possibilité, là où, à vue humaine, on n'a pas le choix que de faire demi-tour. On peut voir ici, au travers de ces hommes, que, avec la foi qu'ils ont eue, ils ont trouvé, eux, un chemin là où tout semblait bouché. là où tout semblait bouché. Possédons une foi pareille. Est-ce qu'on a une foi pareille? Est-ce qu'on aurait fait pareil qu'eux? Je ne sais pas. Or, soyons attentifs à la foi de ces quatre hommes. Passez devant les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Tout le monde est devant eux, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils passent avant les autres. Qui n'a jamais été à la caisse du magasin et que quelqu'un passe devant vous à la caisse? Pas gay, ça. Vous êtes là, vous êtes à la caisse, attendez, il y a déjà une longue file et quelqu'un passe devant vous. Il fait semblant de rien, il passe, hop, tac. On dirait que c'est les petits vieux parfois qui font ça. Mais c'est pas vrai, hein. Il n'y a pas que les petits vieux qui font ça, c'est pas vrai. C'est pas gay quand on passe devant soi. C'est ce que ces hommes ont fait. Pourtant, ils sont passés devant les autres. Ils sont montés sur le toit. Mais c'est interdit, hein. On monte pas sur le toit des autres comme ça. Hein. C'est pas leur maison, là-bas. Ils sont carrément montés sur le toit. C'est interdit, en plus, c'est dangereux. C'est risqué de trébucher, c'est risqué de tomber en bas du toit, hein. Pour ceux qui sont couvreurs ou qui montent ici en hauteur, je pense à Samuel sur les arbres et tout ça, c'est dangereux de grimper, hein. Si on n'est pas équipé correctement, on peut tomber, hein. Ils ont découvert le revêtement de toit. Ça a dû demander un effort, hein. Il a fallu casser. Il a fallu tirer, il a fallu casser, ça a demandé un effort quand même, hein. Et en plus, ça abîme. Ceux qui montent sur le toit des gens, en plus, ils abîment le toit quand ils sont grimpés dessus. Et quatrièmement, ils ont risqué les ennuis. Ils ont abîmé la maison, ils ont cassé le toit. Les ennuis peut-être avec ceux devant qui ils sont passés. Pourquoi eux ils passent devant les autres? Pourquoi ils font pas la queue comme tout le monde? Ils ont risqué peut-être aussi les insultes, les moqueries, et peut-être aussi la violence physique, parce que certains auraient pu les prendre à partie. Voilà ce qu'ils ont fait, ces quatre hommes. Est-ce qu'on s'imagine, nous, faire ça pour un ami? Est-ce qu'on s'imagine faire ça pour un collègue? Est-ce qu'on s'imagine faire ça pour un frère ou pour une sœur? Est-ce qu'on s'imagine faire ça pour quelqu'un que nous voyons dans la détresse, au coin de la rue? Est-ce qu'on s'imagine faire ça? Est-ce qu'on le ferait déjà pour nous-mêmes? C'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce que je le ferais déjà pour moi-même? Voilà que je suis invité à écouter un prédicateur ou à participer à une réunion et que voilà que je me rends compte que c'est plein d'embouteillages, j'arriverai pas à l'heure ou j'arriverai pas du tout. Voilà, on va rebrousser les chemins, c'est rien, ce sera pour une prochaine fois. Est-ce qu'on le ferait déjà pour nous-mêmes? Faire tant d'efforts pour nous-mêmes? Je ne sais pas. C'est une question que je me suis posée, je vous la pose à vous également. Alors vous y répondrez dans votre tête, bien sûr, hein, après avoir réfléchi un petit peu. La parole de Dieu ne nous donne pas le nom de ces hommes. Il n'y a pas le nom de ces hommes. On sait qu'ils sont quatre, mais la Bible ne donne pas leur nom. Bon, si la Bible ne donne pas leur nom, c'est que ça n'a pas d'importance, hein, c'est que c'est pas, ça n'allait rien changer dans l'histoire qui nous est racontée. Et moi, j'ai envie de donner à ces quatre hommes un nom de substitution, juste pour aujourd'hui, pour nous aider à comprendre. Le premier homme, on l'a appelé sympathie. Le deuxième homme, entraide. Le troisième, ingéniosité. Et le quatrième, persévérance. C'est comme ça que sympathie, entraide, ingéniosité et persévérance ont porté leur ami, ont accepté de porter leur ami et de prendre des risques, ont accepté de voir un chemin où il n'y en avait pas. Est-ce que moi je suis un de ces quatre amis? Est-ce que je peux porter le nom d'un de ces quatre amis? Est-ce que je suis plusieurs de ces amis? Ou est-ce que j'en suis pas du tout? Est-ce que ma foi est sympathie pour les autres? Est-ce que ma foi est entraide, ingéniosité, persévérance pour les autres? Suis-je un de ces amis? Les vertus que ces hommes ont pratiquées envers le paralytique sont à mettre en avant. Que ces vertus puissent être aussi les nôtres. Que nous puissions regarder à ce qu'ils ont fait et que l'on puisse se servir d'eux comme exemple. Pourquoi? Parce que la foi qu'ils ont eue, ce qu'ils ont accepté de faire, qu'est-ce que ça a fait pour le paralytique? Mais ça a été une source de vie, une source de bénédiction pour le malade. Si ces hommes-là n'avaient pas accepté de faire ça, le paralytique serait toujours paralytique et ses péchés seraient toujours ses péchés. Il serait toujours dans son péché. Avançons un petit peu et la Bible nous dit au verset 5 quelque chose d'exceptionnel que parfois on pourrait passer à côté dans le verset 5. Je vais reprendre la lecture avec vous pour relire ce verset 5. Marc 2, verset 5. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus voyant leur foi. Jésus voit la foi. Jésus reconnaît la foi des hommes et des femmes. Jésus est celui qui voit notre foi personnelle en action. Jésus est celui qui voit notre foi en tant qu'Église en action. Mais si Jésus voit la foi en action, Jésus voit aussi notre manque de foi. Il peut le voir aussi et il le voit. Jésus voit notre manque de foi en action. Matthieu 21, versets 18 à 22. Nous pouvons le prendre ensemble. Matthieu 21, versets 18 à 22. Par rapport au manque de foi. Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, donc Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne cesse de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis, en vérité, Jésus dit quelque chose d'important, en vérité, je vous le dis, Jésus dit quelque chose d'important, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Cela se ferait. Et le verset 22 également, on peut le mettre. « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Vous le recevrez. Des comptes, il nous en sera demandé lorsque nous arriverons auprès de Jésus. Or, je ne dis pas que notre salut nous sera retiré, c'est pas ça que je dis, mais des comptes, il nous en sera demandé. Le peuple de Dieu passera en jugement devant lui. Des comptes nous seront demandés. Qu'est-ce que nous avons fait de nos talents, de nos dons? Qu'avons-nous fait de notre vie de prière? Qu'avons-nous fait de bienveillant pour les autres? Qu'avons-nous fait des dons, des capacités que le Seigneur lui-même nous a données, non pas juste pour faire beau, mais pour les pratiquer, pour l'avancement de son règne? Il sera demandé des comptes. Donc si Jésus voit la foi en action, Jésus voit aussi notre manque de foi à chacun en action. Et combien il peut être grand notre manque de foi, parfois en action. Et encore une chose particulière de Jésus, combien l'introduction de Jésus va être bizarre. J'ai trouvé ça bizarre au premier abord. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Moi, je me dis, je me suis mis un petit peu à la place du paralytique et à la place des hommes qui l'ont porté. Est-ce que sincèrement, c'est les premières paroles qu'ils pensaient entendre de Jésus? Je pense que si tant d'efforts ont été faits, passer devant les autres, monter sur le toit, découvrir le toit de la maison, gratter pour retirer, faire une place assez grande pour passer le lit, risquer les moqueries, les insultes, la violence des autres, c'est pour que Jésus leur dise à l'ami, marche. Je te guéris, marche, prends ton lit, va montrer à ta famille, retourne chez toi, marche. Mais là, Jésus leur dit, mon enfant, Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et certainement que les hommes qui sont restés au-dessus sur le toit, qui ont vu maintenant sur leur ami et sur Jésus, entendent aussi cela. Et c'est pas ce qu'ils pensaient entendre au premier abord. En tout cas, si ça avait été moi, je pense que c'est pas ce que j'aurais souhaité entendre ou ce que j'aurais imaginé entendre en premier lieu. En premier lieu. Alors pourquoi Jésus déclare-t-il cela? Pourquoi Jésus va dire ça? C'est une question qu'on doit se poser. Dans la parole de Dieu, Jésus, il dit pas les choses juste pour faire rire, il dit pas les choses pour rien. Tout ce que Jésus dit a de l'importance. Il faut faire attention aux mots de Jésus. Jésus voit au-delà des symptômes la cause profonde. Voilà pourquoi Jésus dit ça. Jésus voit au-delà des symptômes la cause des souffrances de l'homme et de la femme. Et Jésus souhaite pas résoudre un problème juste temporel, sans s'occuper, j'ai envie de dire sans s'occuper avant toute chose du problème spirituel et éternel qui ronge cet homme. Je ne suis pas en train de dire que cet homme est paralysé parce qu'il a péché, parce qu'il a commis tel ou tel péché, mais le péché d'Adam et Ève, le péché originel qui nous colle à la peau, colle aussi à la peau de cet homme. Et avec le péché, le corps se dégénère, le corps dégénère, le corps vieillit, le corps s'abîme. Et cet homme est paralysé parce que le corps s'abîme, parce que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Combien cette parole de Jésus, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés en premier lieu », avant de guérir l'état physique de cet homme, nous montre encore combien Dieu est pour nous un Dieu de compassion, un Dieu de bienveillance, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui prend soin de ses enfants, un Dieu qui prend soin, un Dieu de compassion. Et à nous aussi. Jésus ne souhaite pas seulement s'occuper d'un problème temporel, de nos petits bobos, nos soucis de maladie qui sont parfois impressionnants, c'est vrai. Et d'ailleurs encore, un privilège que Jésus ait fait ça. Parce que si Jésus s'était contenté de guérir de la maladie de cet homme, la paralysie, cet homme aurait marché, mais cet homme aurait de nouveau pu, encore une fois, retomber paralytique, mais cet homme serait mort dans ses péchés, son âme aurait été vouée à la perdition. Là, Jésus va le libérer de la plus grave maladie qui ronge le monde. L'homme et la femme sont rongés par le péché. Et nous devons le dire aux hommes et aux femmes autour de nous. Celui qui meurt ou celle qui meurt dans ses péchés sans avoir eu de la repentance pour Jésus, pour Dieu, eh bien meurt éternellement, loin de la face de Dieu, une éternité de perdition. On doit savoir le dire, on doit le dire, on doit le dire, on doit le dire. Jésus fait pareil pour nous. Il nous a guéris de la plus grave maladie que le monde ait connue. Nous sommes maintenant guéris de cette maladie du péché. C'est terminé grâce au sang et au corps de Christ. Comme la Sainte Cène nous a rappelé, Dieu était un Dieu de compassion qui aime l'homme, qui aime la femme. Jésus va poser encore une fois une question provocante. Question provocante aux scribes. Parce que les scribes, ils sont là, on l'a dit, sur une chaise, ils sont bien installés. Pour eux, il y a de la place. Ils sont installés. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les scribes? Ils vont pas le dire aux autres, mais en dedans d'eux, dans leur cœur, dans leur esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont critiquer. Ils vont critiquer Jésus. Ils vont le critiquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment cet homme parle-t-il ainsi au verset 7? Il blasphème. Blasphémer, c'était puni de mort. On était puni de mort. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils se disaient au-dedans d'eux, critiquaient Jésus. Pourquoi nous aussi, nous passons tant de temps à critiquer les autres? C'est notre cas. Combien nous sommes parfois des scribes, nous aussi? Combien nous passons notre temps à critiquer les autres? Au verset 8, Jésus dira, « Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Elle nous est posée aussi à nous cette question. Pourquoi avons-nous de telles pensées dans nos cœurs parfois? Je dirais même souvent. Nous passons notre temps à critiquer les autres souvent. On commence dans l'église, les messages durent trop longtemps ou pas assez longtemps. Souvent c'est trop longtemps. On passe notre temps à critiquer la tenue vestimentaire des autres. Passons notre temps à critiquer la manière de parler ou l'accent des uns et des autres. Passons notre temps à critiquer ce qui se fait dans l'assemblée ou ce qui se fait pas dans l'assemblée. Nous sommes des êtres humains, nous sommes comme ça. Nous passons du temps à critiquer. Et Jésus dira, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et je rajouterai, alors qu'il y a autant de travail à réaliser, alors qu'il y a autant de bien à faire autour, alors qu'il y a autant d'œuvres dans lesquelles on peut s'engager, alors que l'assemblée, rien que celle de Jumet, a besoin d'hommes et de femmes qui soient motivés pour travailler pour le Seigneur. C'est vrai. Suite aux critiques de ces scribes à l'intérieur d'eux, Jésus va poser une question provocante aux scribes pour les faire réagir. « Lequel est plus aisé de dire à un homme, dira Jésus, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche ?» Jésus est celui qu'on trompe pas, on dupe pas Jésus. Jésus, il sait tout. Il y a des choses qu'on cache aux autres. Moi, le premier, c'est vrai, il y a des choses qu'on cache aux autres. Des choses qu'on cache aux autres. Nos pensées les plus intimes, nos raisonnements parfois les plus malsains, nos pensées, nos critiques envers les autres que nous formons au plus profond de notre cœur, mais Jésus les connaît. On le dupe pas. Il sait ce que nous pensons. Avant même si on le dit jamais, il le sait. Faut pas croire qu'on dupe Jésus. Faut pas croire qu'on le trompe. Personne ne trompe Jésus. Jésus est pleinement homme, mais pleinement Dieu. Jésus sait tout. La parole de Dieu est tranchante, nous dit la parole de Dieu. Plus qu'une épée à double tranchant qui perce la moelle, les os, les jointures, l'âme. Qui est la parole de Dieu? La parole, c'est Jésus. On ne le trompe pas. Voilà une preuve supplémentaire que La divinité de Jésus. Il est pleinement homme, mais pleinement Dieu. Lequel est plus aisé de dire à un homme, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, comment ces scribes ont dû réagir à la question provocante de Jésus? En fait, de le dire en français, il est aussi simple de dire l'un que l'autre. Voilà, si vous voulez dire à votre voisin, tes péchés sont pardonnés, le dire c'est facile. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et va aux toilettes ou va rentre chez toi. C'est facile à dire en français, c'est pas compliqué. Dire l'un comme l'autre, c'est facile. Mais le pratiquer, mais le réaliser. Humainement parlant, c'est impossible de faire l'un ou l'autre. Qui aurait pu dire à un homme ou une femme, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, et de le guérir en un instant. Humainement parlant, il est impossible pour l'homme. Au moment où Jésus dira à cet homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ses péchés sont réellement pardonnés. Il est pardonné. Jésus est intervenu avec puissance dans sa vie. Ses péchés sont pardonnés. C'est comme ça. Jésus l'a dit. Jésus n'est pas un menteur. Mais est-ce que les autres le voient? Est-ce qu'autour, les gens qui sont installés autour, debout, assis, à l'entrée de la maison, sur le toit, est-ce que ces gens peuvent palper? Est-ce que ces gens peuvent voir que les péchés sont pardonnés? Ils peuvent pas le voir. Ils peuvent pas le toucher. Alors Jésus va dire, il va réaliser quelque chose de miraculeux. Il va réaliser un miracle pour fonder les choses, pour que l'homme, pour que les femmes puissent palper, puissent constater, puissent voir que les péchés de cet homme sont bel et bien pardonnés. Et si Jésus n'avait pas réalisé ce miracle, cet homme serait quand même pardonné. Cet homme n'arriverait plus en jugement auprès de Dieu, mais pardonné de ses péchés. Mais les hommes et les femmes autour auraient pu retourner chez eux en ne croyant pas Jésus, en se disant « oui, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est réellement fait ?» Alors Jésus va réaliser un miracle. Et ce miracle, c'est qu'il va dire au paralytique « lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi et marche maintenant. » Et cet homme va se lever devant tout le monde. Comme ça, chacun pourra constater combien Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Aucun miracle dans la parole de Dieu, dans les évangiles, n'ont été réalisés gratuitement. Et je ne suis pas en train de dire par là qu'on a dû payer pour assister au miracle de Jésus. Mais Jésus n'a jamais réalisé un miracle juste comme ça pour s'amuser. Mais c'est toujours pour nous montrer, pour nous faire découvrir, pour nous expliquer une grande vérité spirituelle. Et la grande vérité spirituelle ici que Jésus veut nous montrer, c'est que sur la terre, le Fils de l'homme, donc Jésus, a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce que Jésus dit au verset 10. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Voilà. Sur terre, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce qu'on y croit ? Qu'on y croit ? Oui, on y croit. On y croit. On a été les bénéficiaires, déjà nous-mêmes. Est-ce qu'on le croit encore pour les autres ? Est-ce qu'on croit encore que demain, les gens que nous rencontrons, les gens qui vont venir dans l'assemblée pour différentes activités ou que nous allons rencontrer à l'extérieur, est-ce que Jésus a encore le pouvoir de pardonner leurs péchés et de bouleverser totalement leur vie comme il l'a fait avec nous ? Eh bien oui, il faut le croire. Il faut la foi pour croire ça. Nous allons continuer la lecture, pour terminer la lecture, ce qui mettra aussi la fin à notre message bientôt. Que vont dire les hommes ? Comment vont réagir les hommes suite au pardon des péchés de cet homme qui maintenant a été manifesté par une œuvre miraculeuse ? Au verset 12. « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Les gens étaient choqués par l'autorité que Jésus pouvait, avec laquelle il parlait, avec autorité. C'est pas comme c'est pas habituel de parler comme ça. Et choqués par la puissance qui sortait de lui. Il avait autorité même sur les esprits impurs. Tous ils furent choqués, tous dans l'étonnement, parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Mais en dépit des preuves les plus irréfutables, les scribes, notamment, en dépit des preuves matérielles, des preuves spirituelles, en dépit du témoignage des uns et des autres, les scribes ne crurent pas la divinité de Jésus. On pourra le voir parce qu'ils vont toujours essayer de le mettre à mort. Ils vont toujours chercher quelque chose à mettre à l'encontre de Jésus pour le mettre à mort. Et ils finiront par y arriver parce que Jésus est venu pour ça, pour mourir, comme il a été dit, pour porter mon péché. Et encore aujourd'hui, pourquoi ne croit pas encore à Jésus ? Pourquoi dehors, beaucoup de personnes refusent encore de croire en Jésus, alors que parfois, les preuves historiques, géographiques, des témoignages et la parole de Dieu sont d'un commun accord pour dire que Jésus existe, pour dire que Dieu existe ? Pourquoi beaucoup ne veulent pas encore croire ? Pourtant, la foi, c'est simple. La foi, elle est simple. Mais la foi, elle exige un effort de volonté de leur part. La foi exige de notre part aussi un effort de volonté. Un effort de volonté. Ces scribes-là, ils ont le cœur froid. Ils ont le cœur endurci. Ils veulent pas croire. Ils veulent pas croire. Qu'en est-il de mon cœur aujourd'hui? Est-ce que mon cœur est froid? Froid, est-ce qu'il est stérile? Est-ce que mon cœur, il est endurci? À tel point que j'ai plus la foi pour les autres. Je crois pas que Jésus est encore capable de faire pour moi, faire aux autres ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que mon cœur est endurci? Encore une question à se poser ce matin. Nous pouvons prendre Hébreux, chapitre 11 et verset 6. On peut l'afficher, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 11 et verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut la foi pour s'approcher de Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Il faut la foi. Il faut la foi. Avons-nous fait cet effort de foi ce matin, nous tous ? Avons-nous encore envie de faire cet effort supplémentaire de foi pour voir des routes et des chemins là où il n'y en a pas, normalement ? Est-ce qu'on a la foi ? Je pense que ce matin, Jésus nous encourage, chacun de nous, même si le chemin est difficile, même si parfois c'est compliqué, même si le monde est en chamboulement, même si des choses nous font peur, même si la terre est bouleversée. Il nous encourage, Jésus, ce matin. À quoi ? À avoir une foi véritable, une foi efficace, une foi ingénieuse, une foi remplie d'amour pour les autres, une foi comme celle des quatre hommes et comme celle de l'homme qui a été guéri. Parce que Jésus, voyant leur foi, il a vu la foi des quatre hommes qui l'ont portée et il a vu aussi la foi de l'homme qui était couché sur le lit. C'est ce que Jésus veut que nous ayons. Et on peut le demander à Dieu. Dieu, ravive ma foi, ranime ma foi, donne-moi plus de foi. Voilà comment nous devons prier aussi à Dieu. Cette foi ingénieuse, pleine d'amour pour leur ami paralysé, pour cet homme paralysé. Cette foi qui a trouvé un chemin de traverse, une solution. Cette foi qui a ouvert une porte là où ça paraissait fermé. C'est cette foi-là qu'il nous faut demander. Parce que c'est comme ça qu'il faut aller auprès des gens que nous accostons pour parler de la parole de Dieu. C'est pas nous qui parlons à ce moment-là. Il faut laisser le Saint-Esprit agir et laisser Dieu parler au travers de nous. Parce que le Saint-Esprit agit en nous, en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Et la foi animée du Saint-Esprit peut faire de grandes choses. Voyez combien Jésus a fait de grandes choses avec la foi de ces hommes. Il a guéri un homme de sa paralysie. Il a pardonné les péchés d'un homme. Qu'en est-il de ma foi aujourd'hui? Comment est-elle? Est-elle en train d'exploser? Est-elle animée? Est-elle pleine de feu, pleine de zèle? Ou ma foi est-elle froide, éteinte, sans plus de puissance parce que j'y crois plus? J'y ai cru en son temps, mais je me laisse porter maintenant. Et maintenant, c'est aux autres de faire l'effort. C'est plus à moi, peut-être. Qu'en est-il de ma foi? Si Jésus a vu, et Jésus l'a vu, et je terminerai par là, si Jésus a vu et constaté la foi chez ces quatre hommes et chez le paralysé, s'il l'a vu à cette époque, il le voit encore actuellement. Parce que Dieu, Jésus, est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le même Dieu. Donc Jésus voit notre foi personnelle en action. Il la voit. Et nous serons récompensés pour ça. Parce que lorsque nous paraîtrons devant Jésus, nous aurons des récompenses, la parole de Dieu le dit. Une rétribution à ce que nous avons effectué. Nous en aurons une. Jésus a vu la foi de ces hommes, il voit la mienne. Mais il voit également mon manque de foi. Il voit ce que je ne fais plus. Il voit ce que j'ai perdu. Et il n'attend qu'une chose, Jésus. C'est que par la repentance, nous allions vers lui. Et que nous lui demandions, Seigneur Jésus, c'est vrai, ma foi est éteinte. Je ne crois plus, je suis un peu éteint. Et Jésus va raviver la foi. Si on s'approche de lui, comme dira Hébreu, en croyant qu'il est Dieu, et en croyant que c'est lui qui donne, que c'est lui qui permet tout ça. Je terminerai par un verset. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 7, un verset très court. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 7, un appel qui nous est fait aussi à nous. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Si ces hommes dans l'histoire avaient marché par la vue, l'histoire, elle s'arrêtait là. Cet homme restait paralysé, cet homme restait condamné à vie dans ses péchés. Mais parce que ces quatre hommes ont vu par la foi un chemin là où il n'y en avait pas, parce que ces quatre hommes ont vu une porte ouverte là où ça paraissait fermé, parce qu'un chemin de traverse a été trouvé alors que tout semblait bouché, eh bien cet homme a été au bénéfice d'une guérison et du pardon de ses péchés. Alors nous aussi, je voudrais vous encourager, et moi le premier, à ce que demain, lorsque nous parlerons aux hommes et aux femmes de l'Évangile, lorsque nous travaillerons pour l'évangélisation, de voir des chemins, de voir des routes ouvertes là où ça semble bouché. Parce que Jésus est encore celui qui veut ouvrir des chemins, des routes, là où tout semble impossible à vue humaine. Marchons par la foi et non par la vue. Je voudrais terminer par la prière avec vous. Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'elle est source d'encouragement. Seigneur, parce qu'elle est source pour nous, Seigneur, d'exemple, de riche en bonté, Seigneur, d'exemple, mais aussi de route à suivre, de marche à suivre. Seigneur, ce matin, ta parole nous montre parfois notre manque de foi. Seigneur, combien nous sommes des personnes parfois qui avons un cœur dur, un cœur froid, un cœur qui n'est pas ouvert pour les autres, Seigneur. Même pour nous-mêmes, parfois, nous faisons preuve de manque de foi. Ta parole, Seigneur, pourtant nous dit que si nous avions la foi, Seigneur, nous ferions des choses grandes, des choses merveilleuses sur la terre. Seigneur, pardonne-nous notre manque de foi, Seigneur, en tant qu'assemblée, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu personnellement, Seigneur. Notre prière, Seigneur, est que tu nous aides, Seigneur, à voir des chemins au travers du Saint-Esprit, Seigneur, à avoir la foi en toi, Seigneur, à voir des chemins, à voir des possibilités, à voir des routes ouvertes, Seigneur, là où tout semble bouché pourtant, Seigneur. Dans nos vies personnelles, Seigneur, mais aussi dans notre vie d'église, dans l'évangélisation notamment, Seigneur. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui nous rappelle à l'ordre parfois, Seigneur, mais qui nous dit encore et toujours, dans la repentance, je suis toujours prêt à ranimer la foi. Je suis toujours prêt à pardonner, toujours prêt à repartir avec vous. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur, pour ta constance que tu emploies, Seigneur, envers chacun de nous. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, abondamment. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, pallier aux lacunes de notre humanité, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis pour ta parole, Seigneur. Amen.